Papa, non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère, c'est même devenu ultra simple, et notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Vous allez voir, tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canon dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos campagnes email. Vous pouvez même vendre votre propre formation en ligne. Donc, si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, eh ben, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, à l'occasion de ce partenariat, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. Alors, n'attendez plus et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline. Hello, hello les amis, ici Pauline Néniaud et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Alors comme vous le savez, dans ce podcast, j'ai l'habitude d'inviter des personnalités remarquables pour me parler de leur vie, de leur parcours, de tout ce qui leur a fait devenir la meilleure version d'eux-mêmes. J'invite des scientifiques, des sportifs, j'invite des entrepreneurs, j'invite vraiment tout un panel extrêmement large et c'est d'ailleurs ça qui m'éclate, je peux le dire. Et en l'occurrence, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Chauhin, qui est spécialiste des relations humaines. Pour tout vous dire, c'est même la première fois que j'invite une personne spécialiste des ressources humaines ou des relations humaines, comme il aime bien le dire. Pour une raison, j'ignore, en fait, je n'avais pas encore pris le temps finalement de m'intéresser avec vous à ce sujet sur le podcast. Heureusement, grâce à Laurent, c'est désormais chose faite. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, si l'épisode vous a plu, si jamais vous aimez le discours de Laurent, eh bien n'hésitez pas à lui faire un petit coucou, un petit signe sur LinkedIn, où il est très présent. Alors, qui est Laurent Chauhin? Il est passionné par l'humain depuis son plus jeune âge. Il nous le dira d'ailleurs dans l'épisode qu'il voulait être géo, vous savez, les géos du Club Med, parce que vraiment il était passionné par ça, par les relations, par les hommes, par les femmes. Laurent a travaillé comme DRH dans les plus grandes entreprises françaises et internationales. Aujourd'hui, il est DRH de Mazars. Il partage dans cet épisode son goût pour l'humain à travers ses nombreuses rencontres et ses anecdotes avec une solide pointe d'humour. On a également abordé sa vision de l'accompagnement des dirigeants, du coaching, mais aussi du métier de DRH, qui je trouve est un métier assez mal compris. Et je trouvais que dans cet épisode, ce qui était intéressant, c'était de battre en brèche qu'on a de l'habitude d'entendre sur les enjeux de ce métier de DRH, qui parfois, il faut le dire, est considéré comme un petit peu pipo. On a également parlé d'estime de soi, d'état d'esprit ou encore de l'importance de bien s'entourer. Bref, un épisode dense destiné à nous faire réfléchir cet été. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Laurent Chauhin. Bonjour Laurent.
Bonjour Pauline.
Merci mille fois d'avoir accepté cette invitation. Je suis ravie. Alors, première question, je suis allée creuser dans vos archives. J'ai farfouillé partout, Laurent. J'ai même une personne à temps plein qui farfouille sur mes invités. Et alors vous, j'avais beaucoup, beaucoup de choses parce que vous avez beaucoup parlé.
Mais j'ai un homonyme, en fait.
Et en plus, il a de l'humour. Mais vous avez dit quelque chose que j'ai trouvé très juste et je voulais commencer par là, si cela vous convient. Il me semble que vous avez dit « Donner vie puis m'effacer, c'est mon moteur de vie ». Et j'ai trouvé ça intéressant parce que l'humilité est un trait de caractère qui est malheureusement trop rare. Et je voulais commencer donc par vous demander de recontextualiser cette citation, si vous vous en rappelez, et puis surtout d'expliciter ce que vous alliez voulu dire par là.
Alors ça oblige à rentrer dans quelque chose d'un peu personnel, qui est une histoire de vie qui fait que, pour plein de raisons, je suis le produit d'une famille très, très soudée et aimante, et dont la caractéristique est que mes deux parents, quand je suis né, se sont trouvés embarqués par la vie, soit pour la compléter, soit pour la faire progresser. Une maman qui s'est engagée en politique à ce moment-là, qui était une jeune prof, elle avait 18 ans quand elle est devenue prof, elle avait même des étudiants qui étaient plus âgés qu'elle puisqu'elle enseignait en terminale, et puis donc elle m'a eu quand elle avait 21 ans, et de son côté, mon papa, lui, avait eu un parcours scolaire un peu moins sérieux, ce qui fait qu'il avait commencé sa vie comme ouvrier dans une société qui s'appelle les Eaux du Nord. Et ça consistait la nuit à aller réparer des canalisations, faire des choses comme ça, ce qui pouvait présenter sans doute beaucoup d'occasions d'amitié et ce genre de choses, mais dans le même temps, qui constituait pas une vie. Alors il a été un des premiers à aller au CNAM s'inscrire dans les cours d'informatique. Et ça a été sa vie après, il est devenu un ingénieur informaticien, donc c'était une des raisons probablement pour lesquelles j'avais dans les gènes la formation continue, qui a toujours été aussi un fil de vie pour moi. Mais la caractéristique, c'est donc qu'ils étaient assez absents. Et donc les premières années de ma vie, je les ai passées beaucoup avec mes grands-parents. Et il se trouve que mes grands-parents ont toujours été, enfin, ce modèle pour moi d'abnégation. Et c'est ça le mot en fait que j'avais dû utiliser, qui n'a pas été repris par la journaliste sans doute comme tel. C'est-à-dire, littéralement, pour une normalienne, c'est évident, mais d'une façon générale, le fait de se mettre en retrait, de se nier soi-même peut-être un peu, de sorte que je ne les ai jamais entendus être agressifs avec qui que ce soit, mais je les ai surtout toujours vus au service des autres, en fait. Et donc, quelque part, dans ma petite tête de petit enfant, s'est inscrit cette idée qu'une vie réussie, c'est une vie où finalement on donne sans attendre quelque chose. Ce que Jaurès résumait dans un très beau discours à la jeunesse, qui est à un moment un passage sur le courage, où il dit « le courage c'est d'aller à l'idéal pour comprendre le réel sans savoir quelle récompense nous réserve l'univers profond, ni même s'il nous réserve une récompense ». Donc en fait, ce côté, cette abnégation a fait partie de ma vie depuis toujours. Maintenant, dire que c'est une qualité, je ne sais pas, ce n'est pas si évident, ça présente autant de bon côté que sans doute de côté qui peut être plus discutable.
Alors vous m'avez tendu une merveilleuse perche, si je puis dire, Laurent, parce que je voulais bien sûr parler de votre enfance, donc on a compris un petit peu le contexte. Est-ce que vous pourriez revenir en arrière et nous expliquer justement où est-ce que vous avez grandi, donc dans quel type de famille, et qui était le petit Laurent ? À quoi il ressemblait quand il était petit ?
C'est intéressant d'ailleurs cette question, parce qu'il se trouve que dans ma vie d'aujourd'hui, j'ai une vie de coach, aussi d'executive coach, alors... Faut pas la ramener trop, c'est-à-dire je m'occupe surtout des gens qui vont très bien, donc il n'y a pas besoin de s'en occuper. Mais il se trouve que récemment, je travaille pour une personne en particulier qui s'occupe elle-même de d'autres dirigeants, et elle m'a demandé de l'accompagner elle, et en fait on s'est rendu compte, alors qu'on se connaissait depuis un petit moment, qu'on est né dans le même village, et on a le même âge. C'est-à-dire qu'assez probablement on est allé ensemble dans la même petite classe. Donc, j'envoie un baiser à Florence si elle m'entend. C'est assez étonnant, cette... comment Jung appelait ça ? La synchronicité, hein, en fait. Et donc, voilà. Alors, Florence a un côté plus mystique que moi, donc elle pense qu'il y a sans doute des signes de destin, très des bien. Choses comme ça. Moi, de mon côté, je pense que c'est une coïncidence très heureuse, en fait. Mais donc, voilà. Alors, le petit Laurent, c'était quelqu'un qui, donc, plutôt élevé par ses grands-parents, a passé pas mal de temps, finalement, à s'amuser... à pas se préoccuper de grand chose. J'ai eu la chance, et on vit à une époque aujourd'hui où ça peut être mis en cause, en tous les cas jusqu'à maintenant, d'avoir une vie qui pouvait laisser une vraie part à l'insouciance. Et ça, dans l'enfance, ça se construit beaucoup. Donc, ce dont je me souviens, c'est ça, c'est cette proximité avec mes grands-parents maternels, c'est cette insouciance, cette joie de vivre, finalement. Donc, franchement, j'ai pas souffert dans mon enfance. Hein,
tant mieux, enfance heureuse. Plutôt introverti, extraverti, plutôt le petit cancre, au contraire le premier de classe.
Alors, introverti, extraverti, justement, c'est intéressant parce que si on prend la définition populaire du terme, c'est-à-dire on a l'impression, en gros, celui qui monte sur la table, qui fait des conneries, et l'introverti, celui qui est renfermé sur lui-même. En fait, le sens est un peu différent. Donc, la vraie réalité, je suis ambivert. C'est-à-dire que si je me réfère réellement à ce que veut dire le terme, je puise mon énergie autant des autres que dans les moments de solitude qui vont me permettre de me reconstituer moi. Donc, je suis vraiment à 50-50. Maintenant, dans les faits, dans la définition populaire des choses, je suis plutôt quelqu'un qui est vu comme extraverti, c'est-à-dire en réalité qui a pas de vrai filtre dans la capacité à essayer de faire rigoler les autres, bien que ce soit une intention qui souvent reste totalement déçue, parce qu'on ne peut pas s'amuser soi-même et amuser tout le temps les autres. Mais donc voilà, donc plutôt extraverti, on va dire. Ouais.
Très bien. Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez petit ?
Est-ce que je m'en souviens ? Je ne sais pas, mais par contre, plus tard dans ma vie, j'ai sublimé ce que j'aurais aimé vouloir faire quand j'étais petit. Mais je ne suis pas sûr du tout que c'était ça. C'est-à-dire que si on me disait « tu dois refaire ta vie aujourd'hui », j'essaierais de devenir géo au Club Med, ce que je n'ai jamais été. Donc extraverti sans doute, ou architecte, c'est un métier qui me tente beaucoup, m'a tenté beaucoup. En tous les cas, des métiers liés à l'esthétique, mais où, je ne veux pas dire qu'il faut une confiance en soi, parce qu'en fait, la confiance en soi, j'ai toujours eu. La confiance en moi-même, c'est jamais manqué de ça. Par contre, je pense que je n'ai pas eu l'habitus, l'environnement qui faisait que tout ça me paraissait possible. J'ai eu plus un sentiment de devoir construire progressivement des choses. C'est pas un sentiment d'illégitimité, mais c'était un sentiment souvent de dire « fais tes preuves plutôt d'abord ». Donc ça va pas bien avec le côté « allez, sois rayonnant tout de suite et va pour le plus large ». Donc sans doute aujourd'hui, je répondrai ça, j'ai eu au Club Med ou architecte, et vous voyez qu'aucun enfant de moins de, j'allais dire, 15 ans répondrait ça. Donc voilà, ou alors faut le buter quoi si c'est un mec.
Géo Clemed. Alors c'est drôle parce que comme j'ai un petit peu fait mon travail sur vous, je sais que vous considérez finalement, et ça me fait aussi une belle transition parce que je voulais rentrer dans le métier que vous exercez aujourd'hui, que vous considérez finalement un peu comme un chef de village. Est-ce que vous pourriez du coup nous expliquer cette sublimation et qu'est-ce qui fait que d'une certaine manière vous avez accompli votre rêve d'enfant alors que vous êtes quand même
alors il y a une usurpation sans doute, mais attention, d'abord chef de village à l'ancienne, hein, c'est-à-dire que pour X raisons, et là c'est comme pour vous, la définition de la stupidité, c'est devenir un très bon ami de Serge Trigano après qu'il ait perdu le Club Med. Donc c'est mon cas. Donc j'ai jamais connu le club du temps où Serge en était le patron. Par contre, on a tellement parlé de ce qui était l'essence du Club Med de l'époque. Et en particulier sous l'angle, vous savez, quand on dit géo comme ça, tout de suite on voit un clown. Ou alors on voit des géos célèbres, des Caves-Rivières, des Canteloup, des gens qui... comment s'appelle cette animatrice, Alessandra Sublet, des gens comme ça. Mais en fait, non. Dans Géo, il y a gentil et il y a organisateur. Finalement, si je dois résumer, d'ailleurs, ce que j'essaie d'être dans la vie, c'est ça, c'est d'être gentil et organisateur. Alors, le chef de village, finalement, c'est le super Géo. Et c'est pourquoi j'utilise ce terme. J'ai vécu ma vie professionnelle dans un environnement qui, traditionnellement, soit associé à des codes classiques, un peu gris, un peu... la banque, l'audit aujourd'hui. Or, justement, j'ai toujours cherché à créer ce contraste avec ce que les codes entraînaient à penser et ce qui, en gros, devait faire que le métier était glamour, mais fait parce que les gens étaient glamour, pas parce que le métier lui-même l'est. Donc moi, je suis le spécialiste d'aller dans des boîtes pas glamour, mais où il y a des gens glamour. Et ben finalement voilà, c'est en ça qu'être un chef de village, ça peut être utile, voyez. Donc un peu quelqu'un qui à la fois pense beaucoup à l'ambiance et en même temps au fond de soi-même est toujours très préoccupé par la qualité de l'organisation, que tout se passe très très bien, qu'il n'y ait pas de hiccup, que justement l'organisation ne soit pas visible non plus, mais elle soit parfaite.
Donc un architecte.
Voilà. Ça c'est. Alors voilà, donc du coup la notion d'architecte, elle peut jouer là-dessus. Il vaut mieux que les bâtiments tiennent
un
bien.
Un architecte des entreprises et des hommes.
Des ambiances en tous les cas.
J'aimerais parler donc du métier des relations humaines, parce que, pour être tout à fait honnête avec vous, je n'y connais pas grand-chose. Et je pense
moi
que beaucoup
plus.
De gens... Alors, j'espère que si, parce que j'ai plein de questions pour vous. Et je pense qu'en fait, beaucoup de personnes ont des idées reçues sur ces métiers. Et donc, je voulais peut-être commencer par là. Parce que, pour être honnête, pour en avoir discuté en préparant cette interview, beaucoup de m'ont dit « Ah, mais les RH, c'est complètement pipeau. » C'est, je pense, le mot qui est plus revenu quand j'en ai parlé.
Oui, ce qui manque d'ailleurs un peu de couleur. On pourrait dire bien d'autres choses, en
bien
somme.
Bien sûr.
Les RH, par exemple, c'est beaucoup d'air, un peu de hache.
Oui.
C'est une autre version que pipeau. Dans les faits, d'ailleurs, c'est intéressant parce que vous avez appelé ça les relations humaines. Et moi, c'est l'erreur initiale qui a présidé à mon parcours. C'est-à-dire que... non, alors ces ressources, bah oui, parce que c'est le nom qui existe aujourd'hui. Mais la réalité, c'est en réalité les relations humaines. Et je vais le dire autrement. Moi, en fait, pour plein de raisons, je venais d'un milieu très sympa, tout va bien, mais enfin, qui n'était pas un milieu bourgeois ni quoi que ce soit. Et j'ai fait des études, comme un peu beaucoup de gens de ma génération, dans une école de commerce. En fait, c'est très simple. J'étais pas du tout matheux. J'ai fait un bac C à l'époque, c'est-à-dire un bac scientifique, en me plantant évidemment sur matière scientifique. Mais bon, c'est passé au péno, hein, il n'y a pas de problème. J'étais pas bosseur, j'ai fait une prépa, j'avais tout sauf envie d'être auditeur ou chef de produit, des trucs comme ça, j'ai fait une école de commerce. Alors pas les majeurs, hein, bien évidemment, parce qu'en le faisant un peu tranquille, on va pas à HEC. Et donc j'étais à l'ESC Reims, et il se trouve que, bien sûr, ma famille subvenait à mes petits besoins d'étudiants, mais je faisais des stages et je faisais des choses un peu pour un peu mettre du beurre dans les épinards. Il se trouve que un des métiers que j'ai trouvé, un des petits boulots, c'était de l'alphabétisation pour des travailleurs étrangers sur des chantiers. Alors ça consistait en quoi? C'est simple, les travailleurs étrangers en question étaient essentiellement des travailleurs africains et maghrébins, qui, d'ailleurs, enfin, les maghrébins sont des africains par continent, mais disons, qui venaient des trois pays du Maghreb, et principalement, et ils parlaient français mieux que vous et moi, Pauline, mais par contre, ils ne le lisaient pas. Or, toutes les instructions de sécurité étaient écrites. Donc mon job, c'était un job d'une connerie absolue qui consistait juste à lire à des gens qui devaient porter un baudrier, mettre un casque, etc. Derrière, on attendait sans doute de moi que je m'assure qu'ils le faisaient. Ils ne le faisaient pas du tout. Enfin, c'était... Mais du coup, ces gens-là, bah, je vivais avec eux sur les chantiers. Comme j'avais un job dont l'utilité n'était pas si évidente que ça, elle était sur le papier évidente, mais pas si évidente dans les faits, on passait beaucoup de temps à discuter. J'essayais de m'intéresser à d'autres choses. Et finalement, ce temps que je passais avec eux, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. c'est des relations humaines. Vous voyez, la vraie définition, dans la franc-maçonnerie d'origine, il y avait cette idée que des gens venaient sur des chantiers pendant 3 mois, venaient de n'importe où. Alors, premier temps, il fallait essayer de savoir si c'était des bons ouvriers ou pas, d'où toutes les questions un peu ésotériques, initiatiques et tout ce qu'on voulait. Et puis, de l'autre côté, le soir, ils vivaient dans des loges parce qu'ils n'avaient pas d'endroit où loger. Et ils parlaient des étoiles, ils faisaient, enfin bref, toute la mythologie autour de la franc-maçonnerie. Il se trouve que, finalement, moi, je vivais ça en réel, sans passer par les histoires symboliques et tout le truc. Et je me suis dit, voilà, c'est ça que je veux faire, quoi. Je veux faire des relations humaines. Puis je me suis tout de suite rendu compte que le métier RH, c'était pas ça. C'était les ressources humaines, c'était vraiment avoir des raisonnements beaucoup plus tournés vers l'organisation, etc. Donc j'ai pris une décision radicale, qui a été que ma vie serait de faire que la réalité ressemble à mon rêve et non pas mon rêve essaye de ressembler à la réalité. Donc toute ma vie, j'essayais très très vite d'être en position de pouvoir moi définir l'ambiance, le ton qui faisait qu'au lieu de faire des ressources humaines, on ferait des relations humaines. Je dois rendre d'ailleurs un hommage ici à un de mes amis qui fait le même métier que moi, enfin il le fait bien mieux d'ailleurs, qui s'appelle Jean-Claude Legrand, vous devriez le recevoir, c'est un type formidable, qui est le DRH de L'Oréal, mais directeur des relations humaines de L'Oréal, pas directeur des ressources humaines. Vous voyez, donc voilà, c'est ça, c'est les relations humaines. Maintenant, c'est ce que je viens de vous dire, 90% probablement de mes collègues ne partageraient pas ce point de vue, mais la réalité... En tous les cas, ce qui fait le sel d'une vie de DRH, c'est d'en faire un métier de relations humaines.
Et on sent que ça vous évite. Mais alors, pour revenir quand même à ma question, je suis désolée de vous rentrer
dedans.
Je ne vous lâcherai pas. Pourquoi, selon vous, justement, cette idée reçue que les relations ressources humaines, peu importe, parce qu'en fait, en tout cas, les gens n'y comprennent rien, sont pipeaux. Pourquoi est-ce qu'on se dit que finalement, à l'heure actuelle, c'est un rôle semi-administratif, semi-humain, dans lequel, ces personnes sont là pour embaucher, virer, etc. Mais qu'il n'y a pas forcément de fond et que ce sont un peu des passe-plats, alors qu'en réalité, quand on parle avec vous, on comprend qu'il y a énormément de choses derrière.
D'abord, deux règles absolues. La première, c'est qu'il ne faut pas essayer de corriger les névroses des gens. S'ils ont envie de voir les ressources humaines comme ça, parce que plus souvent, on leur a raconté quand ils l'ont vécu, très bien. Et puis la deuxième, c'est Marshall Rosenberg qui disait, c'est le fondateur de la communication non violente, et qui disait, dans la vie, on a le choix entre être heureux et avoir raison. Alors moi, j'ai choisi mon camp. Donc, je ne vais certainement pas essayer, et jamais je le fais, de convaincre intellectuellement de ce que seraient, soi-disant, les ressources humaines. Pourquoi ? Parce que la réalité, c'est qu'on vit, en fait, ce que vous décrivez en partie, mais on le vit comme une tension interne. C'est-à-dire quand... Je vais vous l'expliquer de manière réelle. En fait, c'est un type qui s'appelle Peter Drucker qui a beaucoup pensé ça. Drucker a montré quelque chose, mis en lumière quelque chose que personne ne voyait. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, le nombre des organisations, alors organisations publiques, privées, les associations, l'ONU, la Sécu, mais aussi des grandes entreprises, les Publicis, Anco, ont été multipliés par 3 millions dans le monde. C'est-à-dire qu'on est passé d'un monde où l'unité de valeur du travail, c'était l'individu, l'homo economicus, selon Adam Smith et les économistes classiques.
L'artisan, quoi.
Alors l'artisan, ou même quand il travaillait, le paysan qui avait fini dans une usine dans les villes, l'exode rural, restait quelqu'un de soumis à son identité individuelle de travail. Alors après, bien sûr, le mouvement syndical a fait qu'il y a eu des regroupements collectifs qui fait qu'après on s'est trouvé d'autres identités, mais c'était pas par le boulot, c'était par l'appartenance syndicale, politique, idéologique. En fait, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, une drôle de sorte de gens a commencé à fleurir partout. C'est ce qu'on a appelé, alors Drucker en anglais ça se dit industrial man, mais en fait c'est l'homme organisationnel, c'est-à-dire les gens qui bossent dans les organisations, des employés de bureau par exemple, ou alors des gens comme moi. Vous savez, il n'y avait pas de DRH avant la Deuxième Guerre mondiale, il n'y avait pas de marketing, il n'y avait pas de contrôle de gestion, tout ce qu'on a connu, et qui nous semble être aujourd'hui le béaba finalement du monde de l'entreprise. Tout ça n'existe que depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, il a bien fallu travailler à non pas la productivité d'ouvriers dans des usines ou dans les champs, mais de travailler à la productivité de ces personnes dans les organisations. Et devinez quoi ? Eh bien, pendant les 60 ans qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale, on a multiplié la productivité des travailleurs dans les organisations par 50. C'est extraordinaire. Toutes ces méthodes alors étaient héritées d'un côté de méthodes très productivistes, très organisées autour de cette idée de la tâche, si je puis dire, du taylorisme, tout ce qu'on voulait, mais sous des formes plus modernes. Mais de l'autre côté, vivait un moment qui disait non mais l'homme c'est important là-dedans parce qu'en réalité il y a toute c'est la tension ergonomique en fait au travail, il y a toute une dimension qu'on ne maîtrise pas, qui est la boîte noire de ce qui se passe dans l'humain. Et donc, en fait, c'est l'école des relations humaines. Donc, en parallèle, se sont développées à la fois une école très productiviste de management et de l'autre côté, une école beaucoup plus de relations humaines. Donc ça, bah, ça a été génial. Alors après, on aime, on n'aime pas. Mais ça a donné des choses qui allaient jusque parfois, effectivement, le re-engineering, le delayering, donc des techniques qui faisaient que l'homme était moins important finalement que le profit. Mais ce à quoi vous faites référence, c'est autre chose. Et ça, c'est ce qu'on a appelé la shareholder value. C'est dans les années 70 que ça a été développé. Mais c'est une autre logique. Donc là, si vous voulez me donner une respiration, vous pouvez poser une question là-dessus et me relancer.
Je vais vous poser une question là-dessus, Laurent.
Et ça, c'est très important.
Et vous relancer. Qu'est-ce donc la shareholder value, mon cher Laurent?
Alors en fait,
je fais une bonne interview, en fait.
Exceptionnel, exceptionnel. Puisqu'on parlait de L'Oréal, par exemple, il y a une personnalité étonnante qui s'appelait François Dalle. Et François Dalle, c'était quelqu'un qui, comme Gilbert Trigano, le fondateur du Club Med, le papa de Serge, comme Antoine Riboud chez Danone, faisait partie de ces grands capitaines d'industrie qui sont restés mais des années à la tête de leur entreprise, des décennies à la tête de leur entreprise. On pensait même d'ailleurs qu'il la possédait. Or, il ne possédait rien. Vraiment un tout petit pourcentage des actions de leur entreprise, et encore souvent, c'était très marginal. En réalité, ils étaient, dans ce qu'on appelle la théorie de l'agence, les représentants des détenteurs du capital. Et ça, pendant plein d'années, ça a marché. Pourquoi ? Parce que les premières entreprises, les maîtres de forge, les Wendel, etc., ils possédaient leur boîte. Donc le patron, c'était celui qui possédait l'entreprise. Mais d'abord, il y avait des questions de succession et les générations d'après, ça marche pas tout le temps. Et après, surtout, il a fallu gérer des entreprises de plus en plus grandes.
Oui, donc mettre des professionnels, quoi.
Et donc, en fait, voilà, on a fait appel. Alors, à l'époque, on les appelait pas des professionnels, mais des agents. C'est-à-dire, en fait, des managers professionnels. Et finalement, on a confié à des personnes le métier de diriger les entreprises, qui souvent étaient mieux faits comme ça que par les héritiers plus ou moins bien formés des propriétaires des entreprises. Et à un moment, dans les années 70, il y a toute une école qui s'est développée aux États-Unis, fait avec d'abord beaucoup d'Autrichiens, malheureusement, mais qui ont énormément poussé l'idée qu'il fallait que les actionnaires reprennent le pouvoir. Que c'était pas suffisant tous les 40 ans de nommer un président, voire de se laisser choisir eux dans les conseils d'administration par les présidents. Et donc ils ont dit, il faut arrêter ça. Une bonne gouvernance, c'est quand l'actionnaire bénéficie de l'entreprise qu'il possède, et donc il faut virer les présidents, en choisir d'autres et leur exiger des retours de l'ordre de 15% par an. Alors vous imaginez 15% par an, la première année peut-être on peut
tous
faire,
les ans, c'est,
là ça devient compliqué. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Là, vous aviez des Antoine Riboud, des François Dalle, des gens comme ça, qui d'ailleurs ne gagnaient pas grand-chose, si vous regardez, par rapport à aujourd'hui, en termes de salaire et de levier. Bien sûr, ils étaient riches à l'époque, pour ce que c'était. Mais ça n'a rien à voir avec les salaires dont on entend parler aujourd'hui, qui ont défrayé la chronique encore récemment avec Carlos Tavares. Donc, fondamentalement, on avait affaire à des représentants d'actionnaires dont la vie était la boîte où ils étaient, qui étaient très proches à la fois de leur cadre et même de leurs salariés, qui avaient cette image du Antoine Riboud qui distribue des carambars, vous voyez, le premier VRP de l'entreprise. Mais là, d'un seul coup, il y a cette logique de l'actionnaire, qui n'étaient pas les actionnaires eux-mêmes qui ont dit ça, c'est des profs, principalement à Harvard et à l'école de Chicago, qui ont dit, non mais maintenant, il faut reprendre le pouvoir des actionnaires, rebellez-vous. C'est ce qu'ont fait les actionnaires. Mais du coup, en embauchant des gens que vous virez après 4 ans parce qu'ils n'arrivent plus à délivrer 15%, les gens qui se font virer après 4 ans disent « D'accord, moi je viens faire le boulot, mais j'ai besoin de garantie. » Donc vous allez me payer très très cher et il y aura un gros parachute à la fin. Et on est entré dans un monde très différent où d'un seul coup d'ailleurs, les
plus
grands dirigeants d'entreprise...
Quoi, au final.
Oui, mais se sont surtout mis totalement au service de l'actionnaire plutôt que
au service
de l'intérêt
long terme,
de long terme de l'entreprise. Voilà. En gros, pour le shareholder, on dit en anglais plutôt que pour les stakeholders, c'est-à-dire pour l'actionnaire plutôt que pour les parties prenantes de la boîte. Et donc, en fait, ces gens-là ont contribué à établir ce sentiment d'un monde ultra-libéral, très tourné vers le profit de l'actionnaire, quel que soit le coût que ça représentait, à la fois pour le client, pour les gens, bref, pour les autres parties prenantes. Alors, la conséquence de ça, ça a été qu'il a fallu aussi qu'eux trouvent des acteurs de ça, et certains DRH sont entrés dans cette logique. Donc, depuis 40 ans, une partie du métier RH est dire « Ah, il faut du courage parce que les plans sociaux, les ceci, les cela ». Alors c'est vrai, et plein de mes confrères ont géré ça, moi-même j'ai eu à gérer ça parfois, mais j'ai toujours fait attention de ne pas aller dans cette forme de métier-là. Moi, c'est pas ce que je voulais faire. Donc il y a un moment où vous pouvez pas les... Enfin, c'est comme les pervers, faut les éviter, faut pas les confronter parfois. Donc moi, en fait, j'ai essayé d'éviter de me confronter à cette partie du métier, même si j'ai dû le faire plusieurs fois. Et donc vous voyez, c'est ça qui va donner cette image du DRH qui en gros n'est qu'un servile... thuriféraire des intérêts de court terme de l'entreprise qui va presser le citron sur les salariés, etc. etc. La réalité, c'est qu'on vit tous, et après, il faut avoir la chance de tomber dans la bonne boîte ou pas, cette contradiction interne très forte, qu'on a choisi un métier de relations humaines qui peut parfois nous amener à être simplement un dirigeant, agent. C'est quelqu'un pour qui j'ai une estime formidable, avec qui on est devenu en tous les cas des copains d'interview, qui s'appelle Stéphane Brisé, qui a fait des films formidables là-dessus. Le dernier en date, donc, est sorti il y a un mois, Un autre monde, et qui montre justement cette dureté, cette complexité du monde du travail, où très très vite, la banalité du mal, pour le dire en employant les mots d'Anna Arendt, c'est peut-être un peu exagéré, mais peut faire que des gens se retrouvent dans des situations de dire « moi je fais juste mon boulot hein, » et quelle que soit la valeur morale associée derrière. Alors ça va aller dans le sens du DRH. Maintenant, j'aime bien écouter Anaïs sur sa chanson DRH qui nous en fout plein la gueule pendant 3 minutes, c'est formidable. Je regarde les films de Stéphane où les DRH n'ont pas toujours le beau rôle, bien que Stéphane ne soit jamais manichéen et que ce soit des rôles complexes, justement, il rend ça bien. Après, parfois, je pense qu'il y a des moments où je suis agacé par des positions, surtout de profs, qui n'ont jamais rien connu de proche ou de loin et qui, en fait, ont trouvé là un terrain de gloire personnelle à bon compte. Et tout ça bien, nourrit un sentiment qui s'approche pour moi d'un populisme assez, assez détestable.
Alors, éduquez-nous, Laurent. Quelle est la mission d'un DRH? Concrètement, imaginez, moi, si on est très concret, j'ai une entreprise d'une cinquantaine, soixantaine de personnes. Ouais. Aujourd'hui, il n'y a pas de DRH. Il n'y a personne d'ailleurs qui gère des relations humaines. Quelles sont en gros les verticales? C'est-à-dire que cette personne-là, si je la recrute, qu'est-ce qu'elle est censée faire? Parce souvent, les gens se disent « Ah ben, elle est là pour embaucher, elle est là pour trier des CV. » Et moi, j'aimerais justement qu'on comprenne. Alors, pour une entreprise de 50 personnes et puis aussi une entreprise de 100 000 personnes, c'est évidemment pas du tout la même chose. Mm-hmm. Mais de se dire concrètement, quel est le rôle profond d'un DRH?
Alors, si c'est le rôle profond, regardez, on va partir de votre propre réponse à ça. Vous essayez de faire quoi avec vos 50 salariés? Quand vous en avez un individuellement devant vous, c'est quoi votre objectif?
J'essaye de le développer pour qu'il prenne plus de place, qu'il puisse faire plus de choses, être le plus productif possible et donc apporter le plus de valeur ajoutée en étant...
Alors, apporter la valeur ajoutée, ça, ce serait le projet, la mission de l'entreprise, d'accord? Mais maintenant, revenons sur développer les gens. Très bien. Qu'est-ce que ça va créer si vous réussissez à faire ça?
Ah bah, ça va créer une bonne ambiance en général. Parce
d'accord,
que
pour l'organisation, mais chez eux.
Un attachement, une loyauté.
Ouais, un peu plus. Là, vous le voyez comme patronne.
Peut-être, juste un sentiment d'être plus utile, peut-être.
Et donc, ça développe leur estime de soi.
Ouais.
Et là, moi, j'ai une vision profonde de ça, qui est que je pense réellement que, si on doit résumer en une phrase, le métier de DRH, le métier de dirigeant d'ailleurs aussi presque, ça doit être d'accroître l'estime de soi des gens qui bossent pour vous. Et après, tout le reste, c'est des moyens d'atteindre ça. Voyez, le jour où vous allez faire plein de profits à titre personnel, mais que vous sentirez bien que les gens vous quittent très vite, vous partent avec des mauvais sentiments, laissent des mauvais messages sur TikTok que vous ne lisez pas, car comme moi, vous n'êtes pas sur TikTok. Mais vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne se passerait pas bien. Voyez. Donc tout le sujet, c'est celui-là. C'est l'estime de soi des gens. Alors parfois, même alors que vous y ferez attention, on vous fera le reproche pour autant... on va s'amuser un peu, d'être arrogant, pas à l'écoute, en permanence suffisant, supérieur, élitaire. Alors que, en fait, peut-être vous passerez votre temps à essayer justement de donner la parole, d'écouter, de vous confronter aux autres, etc. C'est pas grave. Encore une fois, ne cherchez pas à changer ce qu'il y a dans la tête d'un adulte qui n'a pas envie de changer. Hein? La dernière fois que vous avez essayé, ça n'a pas dû bien se passer. Ou encore pire, quand quelqu'un a essayé de vous changer, vous, alors que vous ne vouliez pas, sans doute, ça se passe pas
bien. Je le prends bien sûr très mal.
Voilà. Donc, c'est ça l'idée. Donc, vous voyez, si je dois donner une réponse à votre question, c'est développer l'estime de soi des gens qui bossent pour vous. Mais alors après, ça veut dire quoi? Vous le faites dans le recrutement, dans la formation, vous le faites aussi peut-être dans l'organisation du travail, vous faites attention à ça. Vous voyez, vous allez le faire dans la relation, dans ce que vous allez attendre des gens à qui vous déléguez le pouvoir de management. Vous voyez, c'est ça l'idée, quoi.
C'est passionnant et donc je veux bien qu'on creuse encore un tout petit peu plus. Ouais. Donc, si on est concret, vous parlez de recrutement, vous parlez de formation. Je sais qu'en plus, la formation continue, vous en avez parlé, c'est un peu votre dada. Mais aussi de management, finalement, descendant en cascade, qui forcément fait partie de la formation aussi. Là, imaginez, vous êtes à ma place et vous êtes CEO, vous êtes dirigeant d'une entreprise, d'une soixantaine de salariés.
Oui.
le rôle souvent du dirigeant est en fait un peu le rôle de DRH par défaut, parce que souvent il n'y en a pas à ce stade de l'entreprise, et c'est à peu près vers 60, 100 salariés justement que ça commence à arriver. Quel est le profil type d'un DRH que vous chercheriez? C'est-à-dire que qu'est-ce que vous diriez, une entreprise d'une cinquantaine, d'une soixantaine de personnes, finalement, qu'est-ce qu'il lui faut en termes de relations humaines pour que ce soit plus le dirigeant qui le fait pas très bien forcément, parce que déjà c'est pas son métier et qu'il n'a pas le temps de le faire beaucoup?
Ouais, alors c'est plus compliqué que ça, parce que la plupart des dirigeants, d'ailleurs, quand ils embauchent quelqu'un à un moment, ils ont du mal à déléguer ça en particulier. Et ils vont garder la relation de type paternaliste, maternaliste, sympa et tout, et intelligente. Ils veulent pas perdre ça. Donc ils vont souvent embaucher d'ailleurs quelqu'un qui va les aider techniquement plutôt que quelqu'un qui va les remplacer moralement.
D'où le côté qui peut paraître pipeau, qui est que c'est juste une tâche administrative parfois.
Oui, enfin, ou qu'on laisse à cette personne-là des choses qui sont justement, pour faire simple, où il n'y a plus la gloire. Dans les faits, si vous cherchez quelqu'un comme ça, ne cherchez ni un alter ego, ni un esclave. Je vais le dire autrement. Moi, j'aurais tendance à vous dire, tant qu'à faire dans ce cas-là, vous avez deux options. Soit vous prenez une maman poule, soit vous prenez un coach. Mais pour le premier DRH que vous devez avoir, ça doit être ça. Ça doit être quelqu'un.
Maman poule
qui...
ou coach?
Ouais. Ouais, je m'explique. Alors, d'abord, premier point, certes, sur mon CV, on pourrait voir une collection de grosses boîtes, enfin, relativement grosses boîtes. Moi, j'appellerais ça plutôt des Mittelstand en allemand, c'est-à-dire des boîtes de taille intermédiaire, 30 000, 40 000 personnes. Bon. Mais si vous regardez, il y a des choses entre les lignes, c'est que j'ai jamais fait qu'un seul métier à la fois, parce que ça, on en parlera après. Moi, je crois pas que l'avenir du travail soit de travailler 100% pour une boîte. Mmh. Pas du tout. D'ailleurs, dans ma propre vie, pendant 15 ans, j'ai travaillé pour entre 2 et 4 employeurs. Donc, de facto, il y a une chose très, enfin, très, très présente, disons, quand vous lancez une entreprise, c'est quelle est la valeur clé de cette boîte. Prenons un exemple pour me permettre de citer des amis, d'ailleurs. Donc, quand Serge Trigano perd le Club Med, il va réinventer sa vie, mais en fait, vous voyez, c'est comme quand Steve Jobs perd Apple. Il ne réinvente pas Apple ou Club Med, il réinvente leur industrie. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il faut monter d'un étage et dire, OK, repensons ce qu'est l'industrie, dans le cas de Serge, du tourisme. Et lui, pourtant qu'il venait de toute une histoire qui était Club Med, c'est-à-dire on va passer 3 semaines dans des endroits très loin. Vous savez pourquoi il y a l'étape de 8 au Club Med? C'est parce qu'en fait, c'était les trains qui, pendant 48 heures, amenaient les gens, des gens qui ne se connaissaient pas, qui du coup se socialisaient dans des compartiments de train où il y avait 8 places, donc voulaient rester ensuite ensemble, ce qui fait qu'ils faisaient l'étape de 8 pour qu'ils puissent continuer à rester ensemble après. Vous voyez donc à quoi ça tient. Hein. En fait, quand Serge repense l'industrie du tourisme, on va dire dans les années 2010, un peu avant d'ailleurs, lui, il pense que l'avenir du tourisme, c'est plus ça, c'est pas d'aller dans des endroits fermés, très beaux, près de la mer et tout, ça va être plutôt de redécouvrir des villes sous des angles inconnus. Donc c'est tourisme urbain, 3-4 jours, mais vous n'avez pas envie de passer, de payer les prix d'un palace, quoi. Donc, est-ce qu'on peut faire une sorte d'expérience proche du luxe à un prix de 2 étoiles? Et puis, ma shelter va naître de ça, low cost, high value, pour faire court. Sauf que, c'est quoi l'ingrédient? Et ça a été très copié, ils ont gagné tous les Oscars d'innovation, etc. Et aujourd'hui, il n'y a pas un hôtel qui n'a pas son baby-foot à 11 places. Sauf que ce n'est pas ça, ma shelter. Ce n'est pas le baby-foot à 11 places, ce n'est pas d'écrire des trucs sur les murs. C'est pas d'imiter la déco de Philip Stark. Ce qui fait Mama Shelter, et y compris dans des gens très proches de Mama, il y a des gens qui le comprennent pas, c'est juste le casting des équipes, c'est les gens. C'est-à-dire que vous avez, quand vous allez dans un Mama Shelter, toutes les chances que, un, quelqu'un prenne un peu de temps pour venir vous prendre la commande, que sans doute la personne n'a pas mis la fourchette ou le couteau du bon côté, que derrière vous avez commandé un steak et puis il arrive autre chose. Mais, vous savez quoi? C'était comme quand vous alliez au Club Med avec un espoir énorme au ski et que vous arriviez, il n'y avait pas de neige. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils renvoyaient les gens chez eux en disant, vous avez le droit de m'écrire sur...
Crosspilot, que c'est pas bien.
Que n'est pas content sur The Fork. Non. En fait, à l'époque, en plus, comme il n'y avait pas les webcams qui montraient qu'il n'y avait pas de neige, quand quelqu'un appelait en disant, il y a de la neige, on répondait, ah oui, mais il n'y en a jamais eu autant. Et puis, il n'y a personne arrivé. Mais de toute façon, on était là pour 8 jours. Et après, bah, vous faisiez les signes démentiels, Yukaidi, Yukaida. Et les gens ressortaient de là. Ils n'avaient pas eu de neige, mais ils avaient une semaine extraordinaire. Eh bien, le Mama Shelter, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on se fout, en réalité, de l'expérience technique du Mama, mais vous avez une relation aux gens qui est exceptionnelle. Et donc, tout est dans le casting. Alors, vous voyez, si je reprends opérationnellement le métier, c'est quoi? Et c'est une fille géniale qui s'appelle Célina Pestel qui a fait ça. Bien sûr, Serge, au début, a fait les premiers. Il fallait trouver les bonnes personnes qui partageaient cette vision, qui avaient cette idée, qui étaient capables d'amener des gens comme ça. Parce qu'au passage, des gens de talent et qui ont ça dans l'œil, ils se font pas refuter par n'importe qui, hein, ça je vous promets. Eh bien, voyez, on a eu ces gens-là qui sont venus faire les premiers mamas. Et comme c'était les premiers, accessoirement des gens qui restent 8, 10, 15 ans dans l'hôtellerie où normalement vous restez 3 mois, eh bien, ces personnes-là recrutaient des gens comme eux. Et donc, les talents attirent les talents. Et ce qui fait que d'un seul coup, une ambiance, une atmosphère se crée. Alors du coup, les gens disaient, ah, bah, ça, c'est le baby-foot. Ben non, c'était que les gens, en fait. Mmh. Et voyez, c'est pour ça que le nerf de la guerre dans l'hôtellerie, c'est les gens. Et si vous extrapolez ça, il faut faire de l'hôtellerie partout. Vous voyez, moi, dans l'audit, je continue de raisonner avec mes raisonnements d'hôtelier. C'est-à-dire que je vais continuer à chercher des gens qui vont avoir le même impact sur un client qu'il est en train de servir en faisant du financial advisory que quelqu'un qui recevrait à la réception de Dadlon à Berlin une personne qui est importante. C'est la même chose. Mais voilà. Et donc, vous voyez, c'est important, l'estime de soi. Mmh. Hein, dans l'hôtellerie, il y a un truc très célèbre, c'était chez Ritz-Carlton, où un jour, le patron de Ritz-Carlton avait dit « Nous, on est ladies and gentlemen serving ladies and gentlemen. » C'est-à-dire, si l'employé, il se voit comme quelqu'un qui gagne moins de 1000 euros par mois, qui doit servir des personnes qui sont millionnaires, dépensent comme des fous, et qui sentent cette différence de classe, et que finalement, il n'y a pas de sentiment d'égalité à aucun moment, ils vont mal les servir, ça va mal se passer. D'un côté ou de l'autre, voyez.
Donc une philosophie humaine, tout simplement.
Faut respecter des gens. Mais voyez, j'aime pas mettre trop des grosses valeurs comme ça. D'ailleurs, plus elles sont affichées, plus ça peut être compliqué parfois. Faut juste les vivre.
Je reviens quand même sur le coach ou maman poule, parce que ça m'a interpellée. Ouais. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est quoi les deux typologies là que vous avez évoquées?
Soit ce que je dois faire, c'est venir régler votre karma de dirigeant, et là je suis un coach. Soit ce que je dois faire, c'est venir donner le sentiment à tous les gens qui bossent pour vous, qui avaient l'habitude de voir, parce que vous allez tous recruter, mais vous avez de moins en moins de temps pour tous les voir et vous êtes concentrés sur autre chose. Que pour autant, ils ont le sentiment qu'ils voient Pauline tous les jours. Et que quand moi je vais leur parler de Pauline, ils auront les mêmes étoiles dans les yeux que la fois où vous leur parliez. Donc ça, c'est une maman poule qui va expliquer que c'est pas grave si le petit copain ou le papa ou le machin n'est pas là, et continue à faire vivre cette idée un peu légendaire, un peu géniale. Mais derrière aussi, ça veut dire quoi? Attention, sur des basiques, il faut être super bon. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il y ait un problème que, tiens, mais je ne suis pas payé ce mois-ci, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, vous n'avez plus l'espace pour pouvoir jouer cette dimension qualitative parce que simplement, le quanti n'est pas là. Vous voyez? Donc, il faut des gens aussi, alors soit qu'ils font eux-mêmes, soit qu'ils savent déléguer. C'est pour ça que plutôt que recruter un ou une des RH, recruter une bonne équipe de RH, mais qui a cette philosophie, qui a cette façon commune de gérer les choses.
Bon, il faut que je me fasse coacher. Alors, justement, le coaching de pair, vous avez expliqué que votre vision...
Entre pairs.
Ouais. Vous avez expliqué à plusieurs reprises, dans la presse notamment, que votre vision, notamment de la formation, passe aussi par le coaching entre pairs. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que je trouve qu'on en parle peu. Et donc j'avais envie simplement de vous demander si vous aviez des exemples concrets et peut-être nous parler justement de cette vision.
Alors, pourquoi je me suis permis, et surtout pas, il n'y a pas de mansplaining là-dedans, hein, Pauline, c'est quand je dis entre pairs, c'est parce qu'effectivement, le terme qu'on entend toujours, c'est coaching de pair.
Ouais.
Or, ou coaching par les pairs. Or, peer coaching en anglais, le problème c'est qu'il y a l'ambiguïté parce que c'est raccourci et il n'y a pas la préposition. Mais en fait, pourquoi entre pairs? Parce que l'idée, pour simplifier, c'est on a réussi quand tout le monde est un coach et tout le monde a un coach. Je prends un exemple. Aujourd'hui, vous êtes 50, 60, demain, vous serez peut-être 2000, 3000. Vous n'allez pas commencer à pouvoir payer des coachs individuels à tout le monde. Sauf que le besoin est toujours là. Pourquoi quelqu'un dans une boîte de 2000 aurait moins besoin de coaching que dans une boîte de 50? Et pourquoi, quelque part, un manager qui débute aurait moins besoin de coaching qu'un grand dirigeant qui est déjà expérimenté? Alors, l'idée, c'est quoi? C'est que si on veut faire atterrir un format plus moderne de management, plus ouvert, plus tourné vers les gens, en fait, tout ça, c'est le coaching. Accessoirement, je déteste le mot, hein, faut juste savoir.
Oui,
mais,
il est horrible.
Mais bon, mais tant pis, après, il y a une réalité qui s'impose. C'est quoi l'idée du coaching? Le coaching, c'est de comprendre le besoin de l'autre, finalement, et surtout de faire en sorte que cette personne soit capable de faire. L'idée n'est pas de comprendre et faire, c'est de faire comprendre et faire faire. Mmh. Vous voyez l'idée? Alors, si je prends ce raisonnement-là, ben, la forme moderne du management, ça va être celle-là. Mais pourquoi? Parce que si je termine un des raisonnements qu'on a eu il y a quelques instants, il y a eu l'homme économique, il y a eu l'homme organisationnel, mais quand je dis homme, c'est bien sûr générique. En fait, ça ne s'est pas arrêté là. Et depuis, pour faire simple, les années 2005-2010, on est entré dans une nouvelle ère que d'ailleurs Peter Drucker a prévue en 1980. ils avaient dit on va aller vers ce qu'on appelle les knowledge workers. C'est-à-dire il y aura une transformation technologique, ils ne pouvaient pas anticiper exactement ce qu'elle était, mais ils disaient il y aura une telle transformation technologique qu'on va pouvoir alléger le travail physique encore plus, y compris le travail de bureau, pour aller vers un travail où essentiellement on utilisera son cerveau. Et au passage, on n'a pas le temps, mais je vous le démontrerai, y compris sur des ouvriers en usine. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que nous allons vers un monde des travailleurs du savoir, knowledge workers, en fait. Les travailleurs du savoir, ce sont des gens qui utilisent leur cerveau, mais donc, en fait, là, vous ne pouvez pas contrôler ça. Comment vous travaillez sur la productivité d'un travailleur du savoir? Ce n'est pas évident. Vous voyez, au même moment qu'on essaie de travailler sur la déconnexion et ce genre de choses, vous avez en face des jeunes générations qui disent « Attendez, foutez-nous la paix. Donnez-nous juste les moyens, nous, si on veut, de ne pas bosser le jeudi, mais de travailler le dimanche à minuit si on a envie. » Ne cherchez pas à contrôler notre vie. Ne cherchez pas à nous dire qu'il faut travailler 2 jours en télétravail par semaine. Quelle absurdité. Foutez-nous la paix. Donc, les nouvelles générations, je résume excessivement, mais leur demande n'est pas qu'on leur transmette, c'est qu'on leur permette. À partir de là, si on a affaire à ce genre de personnes, et qu'en plus on est en staff shortage, c'est-à-dire qu'il y a une pénurie des talents aujourd'hui, en particulier des gens diplômés, puisque nous, chez Mazars, par exemple, on ne recrute que des personnes qui sortent d'école. Eh bien, ça veut dire qu'on ne peut plus leur imposer des trucs foireux. Parce que de toute façon, ils ont le choix. Et donc, ils votent avec leurs pieds, ils s'en vont. Alors, et ce que je vous dis est vrai dans l'hôtellerie aussi. Donc, en réalité, il faut qu'on ajuste nos modes de travail à ça.
Et dans la bijouterie, je dois vous dire.
Et dans, je pense partout, en réalité, mais simplement, après, ça va plus ou moins vite. Mais un truc tout bête, c'est que si vous avez des gens qui ont le choix, vous ne pouvez plus les manager par la contrainte, vous devez les manager par la motivation seulement. Donc, en fait, vous devez être dans... La compréhension et la réponse à des besoins. C'est la définition du coaching, en fait, accessoirement. Donc, tout le truc, c'est habilement de faire passer, et je le résume, mais d'un mode de management transactionnel, je te donne ça, tu me donnes ça, à un mode de management relationnel, ce qui est l'avenir. Dans des formes d'emploi qui vont être beaucoup plus ouvertes. Ou peut-être je travaillerai à la fois pour vous, pour Mazars, pour d'autres. Dans ce cas-là, il faut que toutes les structures de management arrivent vers ça. Et c'est pour ça que le coaching entre pairs n'est pas qu'un moyen de répondre aux besoins de gens d'être coachés, c'est aussi le moyen de faire évoluer des cultures managériales vers ça. Alors, des exemples concrets. Là, il faut que vous me posiez une question de relance, sinon tout le monde va s'endormir.
Pas du tout, vous êtes passionnant, Laurent. Non, mais exemple concret, parce que en fait, je pense qu'on a compris, et j'ai moi-même dans mon entourage des exemples de quelques personnes qui ont un emploi et qui, en parallèle, sont freelance, par exemple. Bien peut-être sûr. Un exemple concret vous concernant, puisque vous me disiez que vous avez en fait plusieurs casquettes et qu'à chaque fois que vous aviez des emplois, finalement, vous aviez aussi d'autres activités en parallèle.
Alors, c'est vrai, aujourd'hui, bien que j'ai un employeur essentiellement qui est Mazars, je dis essentiellement parce que j'ai un job de prof, mais qui est totalement marginal par rapport à
mais
ça.
Mais même ça, finalement, c'est quand même une occupation professionnelle.
Oui, parce que c'est un portefeuille d'activités. C'est-à-dire que si je veux expliquer pourquoi c'est comme ça, c'est assez simple. On revient toujours à nos histoires de théorie d'organisation des entreprises. Dans les années 80-90, on a commencé à évoquer l'idée que les entreprises, ça devrait être beaucoup plus flexible, ouvert et tout. Et donc, on a rompu l'idée qu'il y avait un contrat de travail à vie. Si je veux le dire à la manière d'un consultant de marketing américain qui s'appelle Seth Godin, mon grand-père a eu le même job toute sa vie, mon père a eu 7 jobs en succession et moi, j'en ai 7 en même temps. L'idée, c'est quoi? C'est que si vous dites d'un côté, les entreprises sont en train de s'organiser en plus grande flexibilité. Donc, il va y avoir des gens qui sont des salariés mensuels, mais à côté de ça, je vais faire travailler des consultants, des précaires, des prestataires, des personnes qui viennent, y compris pro bono parfois, etc. etc. Pourquoi voudriez-vous qu'en face, les salariés eux-mêmes ne soient pas dans une logique de portefeuille d'activité? Alors, ces deux idées ne sont pas de moi, elles sont d'un Irlandais génial qui s'appelle Charles Handy, qui est sur la fin de sa vie, mais Charles a été un des auteurs les plus prolifiques en management, et qui a appelé ça d'un côté la Shamrock Organization, l'organisation en trèfle à 4 feuilles, vous voyez, avec les 4 feuilles, c'est-à-dire le cœur opérationnel qui sont les gens, effectivement, qui ont un contrat de travail à durée indéterminée, qui sont les Mazariens plus Mazariens que les autres, sauf que, vous voyez, la personne qui a l'accueil chez moi, elle n'est pas payée par Mazars, mais d'une certaine manière, moi, j'ai intérêt à ce qu'elle soit plus mazarienne que les autres, qu'elle connaisse les gens. Moi, j'étais frappé chez Chanel la dernière fois, je faisais une intervention pour David Yana, un autre type formidable que vous devriez interroger plus que moi, et je devais attendre à l'accueil. Et là, je vois le patron de la sécurité qui accueille tous les gens qui rentrent par leur prénom, en leur demandant un petit truc, alors comment ça va, ton week-end, ton machin, mais pas des questions au hasard. Manifestement, ils savaient ce qui se passait. J'étais épaté. Mais c'est ça, le service. Je suis même pas sûr qu'il était sur le payroll de Chanel. Donc, vous pouvez avoir des gens qui ne sont pas en contrat de durée indéterminée, mensualisée, mais qui sont parfois plus dans l'entreprise que d'autres. le gars qui sert à la cafette et qui connaît tout le monde, parce que lui, il voit tout le monde le midi. Et qui a des relations sans doute plus proches que le DRH, qui lui, quelque part, les connaît mécaniquement, mais pas forcément réellement. Ben, vous voyez, ça va vers l'idée du portefeuille d'activité. C'est-à-dire, la réponse du côté individuel à des organisations flexibles, ben, c'est aussi un choix flexible de vie avec un portefeuille d'activité, ne pas dépendre que d'un seul employeur. Vous qui êtes une entrepreneuse, vous le savez, le dernier des métiers où on est libre, c'est être entrepreneur. Parce que là, on dort jamais. Mais quand vous êtes multi-employeur, là, vous avez plus de liberté. Parce que le jour où vous pouvez perdre un boulot et en avoir encore d'autres, votre vie et donc votre employabilité dépend pas de ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ça l'enjeu. Alors après, concrètement, comment ça se décrit? Bah, par exemple, chez Mazars, il y a un an et demi, en France, on a enlevé les clauses d'exclusivité du contrat de travail.
C'est ça. J'allais vous demander, est-ce que concrètement, entre guillemets, derrière ces belles paroles, on peut, en tant qu'entreprise, notamment des entreprises de cette taille, en fait, avoir des actions, quoi, concrètes?
Ah ben, je vous dis, quand on a fait ça, alors évidemment, dans notre métier, notre industrie qui repose sur l'idée de longues heures de travail qu'on facture, etc., c'est totalement contre-intuitif. Sauf que on sait que c'est un moyen aujourd'hui aussi d'attirer des gens de talent qui ont peut-être pas envie. Regardez, typiquement, tiens, voilà une des multiples contradictions du métier de RH. On est tous à brailler depuis 10 ans qu'il faut le work-life balance, hein, l'équilibre de vie pro-perso. Génial. Donc, on affiche ça, etc. Donc, si vous dites à quelqu'un qui affiche ça, vous dites, donc, t'es d'accord que quelqu'un qui bosse chez toi n'aurait aucune raison et ne devrait pas donner 100% de son énergie à ta boîte. Parce que ça, c'est pas équilibré. Ce serait fou d'exiger que les gens se donnent corps et âme pour une entreprise par principe. Ça, ça choque personne que non. Bien sûr que non. Au contraire, non, 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 attention, au contraire, l'engagement, la cause, la compétence collective, le sentiment d'être ensemble. Enfin bref, là, je peux vous mettre la lignée. Je fais gaffe de ne pas dire des trucs que mes copains mettent sur leur site. mais fondamentalement, vous voyez, c'est ça le problème. C'est-à-dire que on est assez incohérent, finalement. Mais si on va vers une vie où les gens, on développe leur employabilité et leur estime de soi, on va dans le sens de dire aussi, développe-toi. Vous voyez? Et du coup, par exemple, moi, j'ai jamais été un des rages de la rétention. Quand quelqu'un de grand talent vient voir en disant « je vais partir », je suis pas à dire « non, non, mais attends, pas du tout, t'as pas le droit » ou alors « t'es un salaud, t'es un traître, combien je te donne pour rester, etc. » Il n'y a que deux choses que vous pouvez dire dans ces cas-là, que personne ne dit. Hein, quand j'avais fait ça devant un moment 30 patrons de boîtes américaines implantées en Europe, donc des CEO EMEA, comme ils les appellent, j'aurais dit « allez, la personne la plus chère à votre cœur vient un matin et vous dit « je vais partir ». Qu'est-ce que vous dites ? Je veux pas savoir comment vous pensez, je veux les mots qui sortent de votre bouche. Et j'ai dit « j'en attends deux ». Et au bout de 30, j'avais pas mes deux mots qui étaient « tu vas te déchirer et tu reviens quand tu veux ». Parce que c'est pas naturel quoi, de dire ça. On se dit « ah non, merde, je peux pas dire ça. Je reprends une boîte, etc. Non. Puis non, faut s'accrocher, il faut pas. Bon. »
Petite anecdote, je partage assez peu de choses de ma vie professionnelle ici, mais alors figurez-vous que je suis assez fière que chez Gémio, on a déjà eu au moins 2 cas de personnes qui sont venus chez nous, qui ont travaillé quelques années, qui ont à un moment eu envie d'ailleurs, ce que je comprends, qui sont partis et qui, 3-4 ans plus tard, sont revenus parce qu'on était restés en lien. Et en fait, cette vision long terme, je trouve qu'elle est extrêmement rare et tellement intéressante parce qu'en plus, même nous, on en a bénéficié. Ces personnes ont eu plus d'expérience ailleurs et sont revenus encore plus heureux d'être là parce que aussi en sachant bah, finalement que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs.
Il y a 10 ans, quand j'ai dit ça, enfin 12 ans maintenant, quand je suis entré chez Mazars, première interview, pas de chance. Alors les gens étaient surpris que j'aille chez Mazars, dans le monde RH. Et donc les journalistes RH, le privilège de l'âge, c'est qu'après vous êtes connu, donc en fait ils vous interrogent par confort, quoi. Ils s'emmerdent à chaque fois avec vous, mais pour le coup ils vous interrogent. Et là tout le monde se disait, bah tiens alors après les caisses d'épargne, machin. Alors j'ai fait hôtellerie, caisse d'épargne, audit. On se dit c'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'il choisit? D'autant que j'avais d'autres choix qui avaient l'air plus flambards, quoi. Et tout le monde se disait va plutôt partir dans d'autres entreprises que je vais pas citer. Et puis je choisis Mazars, mais je savais ce que je faisais. Et donc première interview Figaro, deuxième jour de présence chez Mazars. Et là je dis dans l'interview, enfin du moins c'est ce qu'ils écrivent, je suis pas un DRH de la rétention, je suis un DRH de l'employabilité. Et pour le dire autrement, je préfère un bon qui part qu'un mauvais qui reste. Je rentre à la tour Mazars et là j'ai le président. Alors évidemment qu'il pouvait pas me commencer par me bâcher, donc il me dit ah dis donc j'ai vu ton interview dans Figaro, très très bien. Hein. Donc ça je sais qu'il y a un truc qui arrive derrière. Et il me dit alors par contre ta phrase tu sais ça a choqué. Hein. J'ai dit, alors dis voir Patrick, ça t'a choqué toi ou non 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 moi pas du tout. Mais oh là là il y en a quelques uns. On peut pas dire ça quand même. Je dis, ah, c'est intéressant. Tu vas m'expliquer dans une boîte où 95% des gens ne doivent pas rester pour des raisons d'évolution du modèle économique qu'il faut être un DRH à rétention. Il dit, non, non, c'est pas ça. Mais quand même, c'est vrai. Et vous voyez, c'était il y a 12 ans. Récemment, quand on a annoncé l'histoire de la suppression de la clause d'exclusivité du contrat de travail, vous imaginez que là, on s'est dit, les seniors partners, ils vont nous rentrer dedans. Et c'est la très brillante DRH de Mazars en France, qui s'appelle Mathilde Lecoz, qui l'a présenté aux associés. Et vous savez quel était le réflexe des associés les plus seniors, c'était de dire, bah, il était temps.
Incroyable.
Alors pourquoi ? Parce que si leurs enfants, sans doute, sont là-dedans, donc ils ont à la maison des retours qu'ils n'ont pas dans l'entreprise toujours. Par ailleurs aussi, quand même, il faut être honnête, Mazars, vous vivez avec une moyenne d'âge de 28 ans, donc vous avez en permanence ces jeunes et qui n'ont aucun mal à vous dire ce qu'ils veulent, ce qu'ils pensent et tout. Et donc, en réalité, nous, on a des seniors partners qui sont extrêmement sensibles à ces questions-là. Parfois, ils ne sont pas d'accord et c'est normal, on doit tous avoir une opinion. Mais ne pas être d'accord et comprendre le phénomène et le respecter et le traduire, ils l'ont tous. Quoi. C'est génial. Donc, vous voyez, même les organisations dans la durée, elles évoluent beaucoup. Parce que maintenant, quand je veux dire ça, je préfère un bon qui part qu'un mauvais qui reste. Tout le monde va dire, bah oui, alors, c'est normal.
Une dernière question sur le sujet RH et ensuite, on repartira sur des sujets plus personnels. Ouais. Le sujet de la formation, c'est un sujet et de l'apprentissage. C'est un sujet qui m'intéresse aussi beaucoup. C'est pour ça que j'ai lancé un podcast. Et j'ai la sensation que vous avez la conviction que finalement, se former, apprendre, c'est évidemment pas quelque chose qui doit s'arrêter dans le temps. Au contraire, on doit continuer en permanence à se former. Alors, il existe énormément d'outils de formation continue. Oui. Mais vous, concrètement, quelle est en fait votre vision à ce sujet? Et quelles seraient peut-être, alors sans rentrer dans des astuces, mais quels seraient des conseils que vous pourrez donner à des personnes justement qui se rendent compte que peut-être elles sont arrivées dans une entreprise et qu'en fait, il y a un moment donné où bah, voilà, elles ont besoin d'être nourries davantage pour arrêter de stagner?
Alors déjà, premier élément, ce dont on dispose aujourd'hui par rapport à il y a simplement 10 ans, justement, ou même 5 ans,
c'est incomparable.
C'est-à-dire que quelqu'un qui aujourd'hui veut se former, en deux clics, il se forme, y compris à des choses quand même extrêmement avancées. Donc l'offre est telle que, je vais vous le dire avec d'autres mots, il y a quelqu'un qui s'appelait Jean Gandois, qui a été mon premier patron à l'époque, il était le patron de Péchinet, mais il était aussi le président d'une société qui s'appelait Cockerill Sambre. Et Jean Gandois avait été aussi le patron du CNPF, l'ancêtre du MEDEF, si vous voulez. Et avec Martine Aubry, qui était sa DRH chez Péchinet, ils avaient à l'époque inventé deux idées. Enfin, je le résume avec la phrase qu'ils utilisaient. Jean Gandois disait « il ne faut jamais laisser personne seul face à son problème d'emploi ». Et deuxième point, l'idée qu'il y avait eu derrière aussi, c'était de dire que la grande transformation, c'est qu'à l'avenir, la responsabilité du développement de la personne allait passer de l'entreprise à l'individu.
À personne.
D'ailleurs,
c'est ça.
Si vous regardez aujourd'hui les comptes individuels de formation, etc., etc., c'est cette même logique. C'est juste des avatars toujours de la même. Et donc, l'idée, c'est que, par contre, c'est contestable d'un point de vue idéologique aussi, parce que ça veut dire que là, dans ce cas-là, on renvoie vers l'individu tout. Donc, c'est assez libéral comme façon de voir les choses. Alors que si on vient d'un système plus étatique ou plus dirigiste, on aurait tendance à dire non, c'est la responsabilité de l'organisation de développer les salariés. Ce qui, au passage, est vrai, par exemple, quand vous avez des plans sociaux, la question, c'est... Vous voyez, je vais prendre un exemple hyper concret, vous en vouliez. Imaginez que demain, vous ayez un collaborateur, une collaboratrice, une assistante ou je ne sais qui va dire « Pauline, je voudrais me former à l'espagnol ou à l'italien.
» Ça arrive de temps en temps.
Ça arrive. Pas vous, mais plein de gens vont répondre « mais ce n'est pas utile à ton poste. » Et donc, pendant très longtemps, 90% des plans de formation étaient faits pour servir l'intérêt dans un poste. C'est-à-dire, et vous voyez là, on revient à le DRH qui sert l'intérêt de la boîte plutôt que l'individu. Et alors, c'est même DRH qui faisait ça, qui disait « non, mais je te donne pas ça parce que ça n'a aucune utilité dans ton job ». 2 ans plus tard, aller faire un plan social où la personne allait se retrouver sur le carreau et où là, avoir parlé italien ou espagnol l'aurait aidé à se replacer plus vite. Et cet argent, plutôt que de lui redonner à ce moment-là, en plus en accroissant cette estime de soi, eh bien, on va lui donner en compensation d'un départ avec beaucoup de hard feelings, beaucoup d'amertume, vous voyez. Donc, ce que je lis dans la dimension stratégique des RH, c'est être capable d'anticiper ça. Donc, on ne perd jamais à investir dans le développement individuel des gens, mais ça, de plus en plus, il faut leur laisser la liberté de choisir ce qu'ils veulent faire.
Donc, c'est la responsabilité de chacun, finalement.
Disons, la responsabilité de l'entreprise, c'est donner le plus de moyens possible pour que chacun puisse, à titre individuel, choisir ses voies de développement. Donc, je vais le dire autrement, je pense que l'avenir, c'est que les entreprises deviennent des écoles. D'où le fait que mon projet, sans doute final, exécutif chez Mazars, ce soit de transformer Mazars en Global School of Excellence, c'est-à-dire non pas l'université que je dirige depuis longtemps dans ce sens-là, mais que Mazars, comme entreprise, devienne une école.
Un vrai organisme de formation ?
Qu'en tous les cas, on ne vienne pas au boulot pour bosser, mais pour apprendre.
Ouais. c'est un peu le cas quand même déjà, parce que pour être passé par une école de commerce, on sait que des marques comme Lazare...
Oui, c'est le SC Jouer-en-Josas.
Voilà.
Oui, mais vous étiez normalienne avant, ça veut dire que vous aviez une capacité... Non, non, vous avez appris à apprendre encore avant, et, y compris sur des savoirs non directement opérationnels, mais durablement utiles.
Durablement utile, parfois, je pourrais on le remettre... En... Parfois, on se pose la question.
Ben mais... C'est au moins utile, le questionnement.
Voilà, c'est donc ça, c'est exactement. Laurent, le temps passe et je vais être respectueuse, justement, de votre agenda.
Ouais.
Alors, j'ai quelques questions que je pose toujours à la fin, qui sont des questions personnelles, je vous préviens. La première, c'est est-ce que vous auriez vécu dans votre vie professionnelle, personnelle, un grand échec dont vous pourriez me parler? Et surtout, en fait, les enseignements que vous en avez tirés. Donc, c'est pas pour se complaire dans l'échec.
Ou quoi que ce soit, non. Alors, ça va faire bizarre de dire ça, mais j'adore cette phrase. Vous savez, le drame absolu, c'est quand Dupont-Moretti, en devenant garde des Sceaux, a dû arrêter son spectacle, qui était génial. Et il parlait d'un avocat, Paul Lombard, qui était un avocat célèbre de Marseille, et qui disait « Des grands avocats, je n'en connais que trois, mais j'ai oublié le nom des deux autres. » Alors, si vous voulez, si je file un peu la métaphore... En fait, j'ai mon rapport à l'échec, c'est quand même d'être d'abord un toujours dans l'anticipation, deux dans le rebond. Donc j'ai tendance à soit je sublime jamais un échec. Par contre, je vais jamais raconter le truc dans un sens qui n'était pas la réalité. C'est-à-dire que j'essaie de garder un pied sur la réalité sensible, mais pour être tout à fait honnête, j'aime bien la phrase, la fameuse phrase de Mandela, maintenant tout le monde utilise à droite et à gauche, qui est de dire « je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Bon, moi, ce n'est pas aussi volontariste que ça, mais j'ai plutôt une vie un peu bénie, c'est-à-dire que franchement, voilà. Après, honnêtement, je vais vous dire, mon vrai échec, c'est sans doute à un moment de me dire que je ne me suis pas assez exposé pour avoir des échecs. Et si je veux le dire autrement... Moi, je n'ai pas une lecture très héroïque de ma propre vie. J'ai toujours essayé de la maximiser, de faire des choses intéressantes et surtout de faire qu'elles soient intéressantes pour des gens autour de moi. Donc, quand il y a un échec, oui, je vais vous en citer un, par exemple, qui me revient parce que vous m'obligez à y penser. Vous voyez, ça a mis du temps à venir. Mais il m'est arrivé parfois de forcer le recrutement de quelqu'un parce que je pensais que c'était la bonne personne et puis en période d'essai, ça a pu s'arrêter. Il ne faut pas tout prendre à son compte. Il pouvait y avoir des problèmes liés à la personne, il pouvait y avoir des problèmes liés au contexte, il pouvait y avoir plein de raisons, mais ça pour moi c'est des échecs. C'est-à-dire que là par exemple, je n'ai pas développé l'estime de soi des gens, j'ai mis de l'acide sur des situations sans le vouloir, ça je déteste ça. Donc j'ai pu, et après le pire de ça c'est surtout peut-être aussi, j'ai pu parfois je pense, sans le savoir, sans le vouloir et sans jamais d'intention, blesser des gens ou autre et sans le savoir. Vous voyez, ça c'est un échec. Donc, j'essaie de garder, moi, toujours du feedback sur moi, mais ça, c'est pas moi qui peux me le donner. C'est pas par ma propre réflexion. Donc, en coaching, ce que je fais avec les dirigeants que j'accompagne, ce que je leur dis toujours, c'est que c'est pas moi ou eux qui allons juger s'ils sont performants ou pas. Il faut demander aux gens qui travaillent avec eux en permanence, les gens qui les connaissent bien et les gens importants pour leur avenir. Donc, je pense qu'il faut garder des systèmes où le feedback vient des autres et pas de vous. Soi-disant, les gens qui disent « je me connais très très bien », etc.
Oui,
c'est
oui,
pas vrai.
On se connaît
c'est
jamais.
Les mécanismes de défense des gens à succès, ça. Hein, c'est « j'ai réussi, donc j'ai une croyance de ma réussite », et ainsi de suite. Quoi.
Hyper intéressant. S'il y avait quelque chose qui était à refaire, pareil, dans votre vie professionnelle.
Ouais, bah, donc, Géo au Club Med et, ou chef
bien
de
sûr.
Village, si j'étais un bon Géo, mais au moins Géo, quoi.
Quel village, quelle destination?
Curieusement, pas grave. Mais en changeant, okay. De toute façon, c'était l'intérêt du
c'est
club,
vrai.
Vous passiez
c'est
d'un
vrai.
Club à l'autre. Le gros danger, vous savez, je l'ai vécu dans l'hôtellerie luxe, c'est à un moment, j'avais un regretté patron, il est mort récemment, et j'ai une pensée vraiment émue pour lui, Gianni Van Dalen. Quel héros, en fait, ce type fantastique. Mais c'est lui qui avait rouvert le fameux hôtel Adlon à Berlin, qui dans la littérature d'ailleurs est très présent, parce que c'était l'hôtel où il y avait les nazis, les anti-nazis, etc., qui avait été transformé en bâtiment administratif après la Deuxième Guerre mondiale. Et en 97, Kempinski, la chaîne pour laquelle je travaillais, l'a rouvert. Et c'est un hôtel qui porte une telle part d'histoire, 5000 visiteurs par jour, vous voyez. Et Gianni, donc, l'a rouvert. Et Gianni était un type extraordinaire. Un beau gars, grand, parlant 6 langues, mais séducteur... mais dans le bon sens du terme, pas womanizer du tout, au contraire, très, très, mais très séduisant, très formidable, une personnalité chaleureuse. Et puis à un moment, le président de Kempinski me dit, il faut qu'on, lui-même un type hyper charismatique, et me dit, il faut qu'on fasse une rotation des GM, parce qu'attention, il reste trop. Et j'étais allé voir Gianni, et je lui ai posé la question, Donne-moi trois destinations autres que l'Adlon où tu voudrais aller. Et il m'avait répondu par écrit, 1, 2, 3, Adlon, Adlon, Adlon. Et à Berlin, il était presque plus connu que le maire de la ville. Mmh. C'est-à-dire que c'était devenu quelqu'un d'emblématique. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'après, là, vous vous retrouvez dans des situations qui deviennent impossibles. L'hôtel lui appartient, quoi, quelque part, alors que ça ne lui appartenait pas, que c'était compliqué. Donc voilà, il a fini par aller ailleurs, mais c'était une déchirure. Vous voyez, donc, c'est un élément important de bouger. Et ça, le Club Med l'offrait vachement. Vous ne saviez pas où vous alliez? Il y avait une affectation tournante des GO, c'était formidable.
Encore une question, s'il y avait une maxime, des mots de sagesse, une citation qui vous plaît, alors vous nous avez déjà fait le plaisir de nous en citer beaucoup, mais une, Laurent, une qui vous plaît, que peut-être alors, vous répétez régulièrement.
Que je répète régulièrement, je vous en donne trois pour le prix d'une, tiens. Ah. Il y en a deux qui ne sont pas super sérieuses. Vous savez quelle était la devise des Kennedy?
Absolument pas.
Il ne faut pas se laisser abattre. Donc ça, c'en est une. La deuxième, c'était Woody Allen qui disait « Sur ma pierre tombale, je veux qu'on inscrive... » Vous voyez bien que j'avais quelque chose. Je l'avais dit. Non, la troisième, plus sérieuse, il y a un film formidable que je vous invite à voir ou revoir, si vous... qui s'appelle... en anglais, ça s'appelle « Being There », qui s'appelle en français, je pense, « Bienvenue, Monsieur Chance » ou « Bienvenue, Mr. Chance ». Peter Sellers, vous voyez, un acteur, très... Et c'est un film début des années 80. Et Peter Sellers y incarne un type qui s'appelle Chancy Gardner, qui est un peu un Gaspard Hauser des temps modernes. Il a été recueilli par un monsieur, et ce monsieur l'a accueilli chez lui. Et toute la vie d'adulte, enfin d'enfant, d'adolescent et d'adulte de Chancy Gardner, qui a une quarantaine d'années, ça a été de vivre sans jamais sortir de cet espace qui était la maison, dans un quartier d'ailleurs plutôt pauvre de New York, mais c'était une belle petite maison. Et lui, il sortait pas, il cultivait le jardin, donc il est devenu un jardinier. Donc toute sa vie, toute sa référence, c'est les saisons, les jardins, etc. Mais il n'est jamais sorti des murs. Mais un jour, le vieux monsieur qui l'avait accueilli meurt. Et là, ses héritiers décident de vendre la maison. Donc Chancy Gardner doit sortir. Et il va sortir, va immédiatement se faire renverser par une voiture, qui est conduite par la femme d'un homme d'affaires très influent à New York, très proche du pouvoir politique. Et elle est tellement choquée par ce qui arrive, il est blessé à la jambe, je crois, elle le fait monter dans la voiture et l'amène chez elle, et chez son mari, le fameux conseiller du président. Et là, le mari se fout un peu de ce type. Enfin, qu'est-ce qu'elle fait, cette femme? Elle est contente. Puis il commence à discuter. Alors, mon brave, pensez quoi de la situation? Et l'autre, il pense qu'en métaphore jardinière, donc il dit, vous savez, après la pluie vient le beau temps. Et là, il va faire une série de litanies de choses les plus stupides du monde, les unes après les autres, dire des trucs vraiment d'une banalité affligeante, mais l'autre projette qu'il est en train de dire des choses très profondes. Et donc, le film raconte l'histoire de Chancy Gardner qui va aller jusqu'à devenir conseiller, voire même candidat à la présidence des États-Unis. Parce que tout le monde lui prête un crédit qui, en réalité, non, et lui-même reste totalement naïf, surpris, y compris dans les propositions sexuelles qui lui sont faites et tout. Enfin, c'est un film qui est à pleurer de rire de ce point de vue-là. La fin du film, on le voit partir, et donc tout le monde se dit, mais quand même, le monde est fou, quoi. Mais sauf que là, on le voit marcher sur l'eau, ce qui est très étonnant. Et on le voit partir avec sa petite valise et son petit parapluie, retourner sans doute vers une vie banale, mais sauf qu'il marche sur l'eau. Et la fin du film, c'est une phrase qui est « Life is a state of mind ». Et je pense que c'est ça, en fait. Je crois que la vie est un état d'esprit et que cet état d'esprit, après, il peut être, comme on le voit en ce moment, détruit dans la seconde. Il peut être, au contraire, parfois, vraiment remonté par un détail. Donc, en tous les cas, on est tous responsables de... J'ai une phrase que j'adore, tiens, voilà la quatrième. Je pense qu'on n'est pas responsable de la gueule qu'on a, mais on est responsable de la gueule qu'on fait.
Merveilleux, je suis ravie de vous avoir posé cette question. Je ne connaissais pas le film, mais alors là, je vais absolument aller le voir, oui, forcément. Et dernière question pour vous, Laurent. Est-ce qu'il y a un livre qui vous a particulièrement marqué, que vous pourriez peut-être nous recommander, parce que c'est un livre qui a eu une telle influence sur vous, qui vous a aussi un petit peu fait changer?
En dehors du livre de la jungle, c'est-à-dire que, comme disait Bruno Bettelheim, on s'identifie toujours au héros, mais il faut savoir lequel, quoi. Moi, sans doute, c'était Balou, hein, qui devait m'inspirer le plus. C'est mieux que le serpent, je sais plus comment.
C'est sûr, ou Sherkan, tu vois.
Sherkan, le tigre, etc. Non, moi j'étais plutôt sur Balou. D'ailleurs, vous voyez la figure protectrice.
Donc vraiment le livre de la jungle, ouais.
Non, mais alors non, c'est pas le livre de la jungle que je recommanderais. Non, dans les livres sérieux, s'il faut en lire qu'un, voilà, j'allais dire s'il faut en colorier qu'un. Moi, j'ai deux auteurs qui m'ont marqué, mais c'est d'une banalité affligeante hein, pour ma génération. C'est Albert Camus et Romain Gary. Et dans Camus, s'il faut lire un livre, alors contrairement à toutes les histoires, la peste et tout ça, les gens ont attendu le Covid pour lire la peste, qui est un livre sur le nazisme, donc c'est assez rigolo. Mais c'est Les Justes. Je pense que Les Justes de Camus, d'abord, ça se lit vite et voilà. Ouais. Et si jamais vous aimez ce genre de littérature, du coup, après, vous lisez aussi les Eric Emmanuel Schmitt et ce genre de choses. En particulier, il y a un livre qui est très intéressant. Alors, tout est marrant parce que ses idées sont particulièrement bonnes. Le Visiteur, qui est aussi joué sur des pièces de théâtre, en fait. Donc, vous pouvez le voir en ce moment. Mais il y en a un qui m'a toujours beaucoup frappé, c'est La Nuit de Valognes.
Oui. Hein? Mais qui, donc, je crois, sa première pièce, il me semble. D'Eric Emmanuel Schmitt.
C'est possible. Enfin,
écoutez, sachez que c'est l'un de mes auteurs préférés, que je rêve de l'avoir sur le podcast. Si jamais vous avez son contact, n'hésitez pas à me le donner.
Mais je pense que si vous le contactez, il viendrait très volontiers. Puis sinon, vous savez, il se produit sur scène.
C'est vrai, il faut que j'aille le voir, comme ça, je ferai passer le mot.
Exactement, et il a son propre théâtre à Montparnasse, donc il ne manquera pas de venir, bien sûr.
Laurent, merci mille fois pour votre temps. Pour terminer, j'aimerais simplement vous demander où est-ce qu'on peut vous retrouver, où est-ce qu'on peut en savoir plus sur toutes vos activités.
Alors, tous les soirs, à 20h30, au Théâtre de Variété, bien sûr. Non, pas du tout.
Non, mais blague à part, on a effleuré à peine tout ce que vous faites. Malheureusement, j'ai pas du tout pu rentrer dans tous les détails du cercle du leadership, etc. Ça n'est pas grave. Il y a beaucoup de choses. Donc, où est-ce qu'on peut continuer à se renseigner sur tout ce que vous faites, si on veut vous suivre.
Ah, dans ce sens-là. D'abord, bon, j'essaye d'avoir une activité simple et bête sur LinkedIn. Donc, vous trouverez des choses sur LinkedIn.
Parfait.
J'accepte volontiers les connexions et ce genre de choses. Par ailleurs, peut-être l'un des éléments... Il y a deux endroits où je contribue régulièrement. Il y en a un qui est dans le magazine de la NDRH, qui s'appelait avant La Revue Personnelle. Donc ça, c'est, vous savez, dans le monde académique, il y a trois types de littérature. On distingue la littérature académique, donc dans les revues académiques, qui sont des revues à comité de lecture caractéristiques. Vous publiez un article qui est lu par 2,7 personnes en général, dont les deux reviewers, voilà. Vous voyez. Mais la vocation n'est pas créer un savoir global, c'est de s'adresser aux chercheurs. Donc c'est les chercheurs parlent aux chercheurs. À l'extrême inverse, vous avez Closer, Voici, Gala, où on peut même aussi mettre dedans Les Échos, des publications sérieuses, mais qui sont faites pour être lues par un grand public. Alors, vous voyez, les chercheurs, le grand public, au milieu, il y a un truc qui s'appelle les revues de transfert. C'est-à-dire, c'est les professionnels parlent aux professionnels. Voilà. Alors, moi, je publie là-dedans pour une raison, c'est que j'ai pas toujours été en ligne avec les choix de la NDRH, mais je trouve que quand on a une vision critique, il faut s'engager pour aider. Donc, je me suis beaucoup engagé, toujours. Et donc, j'ai une chronique mensuelle. Et donc, comme ça, c'est bien, vous achèterez le magazine de NDRH, ça aidera
donc
la cause des pauvres.
Donc, c'est la NDRH,
alors,
c'est ça?
C'est terrible, parce que quand ils ont sorti le nom, ça s'appelait avant ANDCP. Puis un jour, quelqu'un m'appelle du bureau directeur, me dit, tiens, on a changé le nom, puisque nous disait que le nom était vieillot. J'ai dit, ah bon, c'est quoi? Et il me dit, la NDRH, c'est génial, hein. J'ai dit, vous avez appelé une association de promotion des RH, la NDRH. Et encore maintenant, il y en a plein qui découvrent, ils disent, ah oui, on n'y a pas pensé.
Non, c'est étonnant, mais écoutez, ils essaient de faire le buzz.
Alors, c'est bon, tant pis. Donc, le magazine de la NDRH, donc là, je publie une chronique mensuelle sur les gourous du management. Mais alors après, j'essaie de me renouveler. Donc, par exemple, Stéphane Brisier, dont je vous parlais tout à l'heure, le réalisateur, fait partie de ça. Mais à côté de ça, vous avez Charles Handy ou des gens qu'on a pu citer. Et puis, j'écris dans la Harvard Business Review, en particulier en France. Là aussi, c'est plutôt, ça s'adresse plutôt à des managers, on va dire, pas du tout des RH, mais des managers. Et là, vous retrouverez non pas des sortes de pensées, parce que c'est mon humeur, mais j'essaie de faire des synthèses des choses que j'entends en traversant le monde sur c'est quoi les tendances du management, etc., etc. Et sinon, je vous invite à suivre aussi les travaux du Peter Drucker Forum à Vienne, parce que Peter Drucker était un homme remarquable et qui
hautement
donne à penser.
Recommandable.
Voilà, c'est ça. Donc là, si jamais vous avez du temps à perdre et que vous avez des insomnies, il faut aller voir ça.
Ouais. Du tout. Ça sera entièrement listé dans les notes de l'épisode. Laurent, ainsi que votre compte LinkedIn qui risque d'être un petit peu sollicité. Je suis ravie de vous avoir accueilli. Merci mille fois pour votre temps.
Pauline et Pauline.
Au revoir, Laurent.
Merci beaucoup. Enfin.
Bye bye les amis, c'est la fin de cet épisode, mais avant de vous quitter, quelques détails en plus. D'abord, pour toutes les infos sur le podcast et cet épisode, ça se passe sur paulinegno.com, vous aurez tout promis, juré. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions ou me proposer de nouveaux invités, eh bien n'hésitez pas à le faire directement sur LinkedIn, Instagram ou YouTube, je vous attends. Enfin, encore mille merci de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère de tout cœur que ça vous a plu et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.